On l'avait jamais faite celle-ci.
Groovy. D'accord, et restons zen.
Scrotum.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Hey! J'ai oublié d'appuyer sur
Je vous emmerde. Je rentre à ma maison.
Heureusement, j'en suis aperçu au bout d'une minute.
Il me parle, frère.
Ça, c'est un couteau.
Tu peux lui faire, bobo.
Cet épisode va être décousu, je le vais. Les gens vont entendre dès maintenant qu'on parle. Hein. Rien à foutre.
That's what she said.
That's what she said.
Peut-être parce qu'on a oublié l'enregistrement au début.
C'est possible.
Considère ça comme un divorce.
Rambo, c'est une pédale.
Engagement.
Bon, on est là pour un deuxième tour puisque j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Et heureusement, on s'est rendu compte au bout de moins de 10 minutes. Et
Qui nous ont paru très longs.
Très longs. Bienvenue dans le podcast Les Bières Narratives, le podcast qui vous parle de bières et des arts narratifs. Moi, c'est Greg, alias The Beer Lantern, que vous pouvez retrouver sur thebeerlantern.com et sur bien d'autres réseaux sociaux. Je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Nounours, alias Eric, alias Les Arts Narratifs.
Ouais, blog, c'est un blog aussi. Hein. Ouais, c'est un blog qui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire. BD, séries, films, romans, etc. J'ai bugué. Peut-être même un jour, un article sur un open space qui sera en fait un huis clos dans une cave avec un mec déguisé en chauve-souris avec un dinosaure géant. Je crois que ça s'est pris.
Oui, oui. Et avec nous, notre ami Brice, alias Grunthosaur, le technicien d'Azitium
Extrême. Bonjour.
Et aujourd'hui...
Ça va toujours depuis 10 minutes ?
Eh bien, ça va toujours très très bien. Et aujourd'hui, on va parler de ce que je considère, moi, comme la meilleure série du monde, The Office. Voilà, donc c'est une série que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai redécouvert vraiment pendant le confinement d'ailleurs. Et
ça lui manquait la vie de bureau.
C'est vrai. Qui est un de mes articles les plus longs que j'ai pu faire sur les arts narratifs, je crois, avec les ça, Fast and Furious.
Fast and Furious, quoi, bah assez largement.
Oui, mais Fast and Furious, j'avais la haine. J'avais vraiment la rage. Et pour notre épisode du jour, transition. Ouais. Et je suis meilleur en mixage cette fois-ci, tu vois. C'est bon, le bouton est rouge. Imagine, on aurait enregistré les deux heures, tu vois. Oh le bordel. Et pour cet épisode, en fait, on va parler de, non pas de deux bières comme j'ai écrit, mais de trois, puisque du coup, on en a une troisième qui va arriver.
Mais en fait, que deux, mais trois.
Voilà. Et je vais vous expliquer rapidement. La première, c'est la Teamworks de chez Siberia, en collab avec la brasserie allemande Blechbrut. Brasserie qu'on ne présente plus, mais qu'on présentera un petit peu quand même tout à l'heure. On a également donc une bière qui s'appelle That's What She Said, que vous entendez d'ailleurs notamment à chaque fois dans notre générique, réplique culte de Michael Scott, qui est une bière faite par les Polonais de chez Tankbusters. Et on a une bière qui aurait dû arriver, mais je vais vous expliquer pourquoi on ne l'a pas encore, mais pourquoi on va en parler quand même, qui s'appelle la Eyes Dwight Fruit de chez nos copains de 90 BPM. Et du coup, Nounours, au menu aujourd'hui.
Alors, au menu aujourd'hui, j'aurais pu parler de plein de trucs de bureau, mais le premier truc qui me vient en tête, c'est évidemment Vivement Lundi.
Vivement Lundi.
Bernard Ménez représente.
Vivement Lundi, Bernard Ménez, on t'aime.
On t'adore.
Très bonne série.
Et quel générique.
Vivement Lundi, on trouve tous ses amis.
Vous avez loupé les gens qui dansaient sur ça tout à l'heure.
Toujours au tête.
Et c'est toujours pas radiophonique.
Magnifique, magnifique série.
Une série
avec Bernard Ménez, Elise Moon, 104 épisodes, tu nous as dit tout à l'heure. Extraordinaire.
De 88 à 92 sur TF1.
Avec Ariel Semenov. Pas qui c'est.
Personne ne sait.
Et
alors en fait, j'ai triché, je suis allé voir sur Wikipédia, c'est la femme de Alain Douté. C'est aussi la mère de Nicolas Douté, du coup.
Ah, je sais pas qui c'est.
Ah non,
il y a Katchatchenko hein, aussi. Ouais, je sais pas qui c'est. Mais je l'ai vu dans plein de films quand j'étais gamin. Mais voilà.
Mais. Pour faire un lien avec le film dont on a parlé dans l'épisode précédent, le patron était joué par celui qui va...
Ah, Mélanie Douté, oui, ça
oui,
y est.
Oui, la mère de Mélanie Douté, je me suis trompé. Oui. C'est pas Nicolas.
Oui.
Mélanie.
Le patron dans Vivement Lundi, c'était aussi le mec super friqué qui était dans Le Père Noël est une ordure.
Oui, d'accord. Oui, je vois, tout à fait.
Voilà, donc ça c'était un lien, un crossover avec l'épisode précédent que vous avez écouté il y a au moins un mois, j'imagine.
Et qu'on a enregistré il y a au moins 20 minutes, on a mangé une pizza parce qu'on est à la bourre.
Voilà. J'aurais pu parler aussi de Working Girls, une petite comédie sur Canal+.
Très bonne série,
très, très 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 sympa. J'aurais pu parler aussi de Severance, quand la vie de bureau remplace littéralement la vie perso dans cette série Apple TV+ avec Adam Scott.
Adam Scott, ouais, Adam Scott.
Voilà, c'est ça. Je Adam sens Scott, mon, pas.
Parks and Rec, le chéri de Leslie Knope.
Ouais, ou si on reste sur Apple TV+, l'ex-mari de l'héroïne de Loot. Une petite comédie aussi, ça, avec Maya Rudolph, je crois, de mémoire.
Maya Rudolph, ouais.
Voilà. Mais au final, ce qui sera au menu ce soir, c'est bien sûr la série qui affectionne particulièrement Greg, au point de spoiler mes introductions, et ce n'est pas sale. Ce soir, The Office.
J'étais trop excité.
C'est parti tout seul.
Parce que The Office, comme j'ai écrit un très gros article pour Les Arts Narratifs. J'ai amené plein de goodies. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est bon, c'est mon moment.
C'est mon soir.
C'est mon soir. J'ai mes mugs, j'ai mes Funko, j'ai mes DVD, j'ai même des bouquins. J'aurais même des sources à vous donner à la fin de cet
T'as
épisode.
T'as même une boule de Noël ou je sais pas quoi là-bas aussi.
Et tu m'as même ramené des États-Unis une boule de Noël avec des bonbons dedans. Alors, du coup, pour accompagner...
The Office, ça n'a pas trop de rapport. Voilà. Mais...
pour accompagner du coup notre épisode du jour qui va être légendaire. Legendary. Oui, c'est notre série. Non, donc comme je dis, on a trois brasseries aujourd'hui. Donc Siberia, on collab avec Bledge Brut, mais Bledge Brut, je l'aborderai sur un autre épisode avec notre bière. On a 90 BPM et on a Tankbusters. Alors, j'ai pas énormément de choses à dire sur ces brasseries parce que la majorité, on avait déjà parlé d'elles, à part Tankbusters, qu'il n'y a pas grand chose en fait comme info. Mais voilà, Tankbusters, donc c'est la.
Qui n'a rien à voir avec le Tang.
Voilà, le Tang. Busters. Donc c'est Tankbusters, c'est une brasserie polonaise relativement récente qui s'exporte plutôt pas mal en ce moment en France chez les cavistes bien geeks, hein, on va dire. Ils ont fait une bière qui s'appelle la Tatuachi Sed que Eric tu avais récupéré dans le bar Beers à Paris de mémoire.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, le nom Tankbusters vient du fait qu'ils sont fans de Ghostbusters. Je ne peux que les suivre puisque le nom de ma société, sur le nom en fait vous entendez Bière Academy, mais le nom de notre société c'est une SAS et on n'a rien trouvé mieux que l'appeler Phantom puisque c'est la SAS Phantom. Donc voilà, on est con jusque là, hein, jusqu'à là. Donc voilà, après on n'a pas énormément d'infos sur ça, en tout cas, la bière est très cool, est très jolie étiquette. D'ailleurs, je vais même garder, je pense, la canette si tu n'en veux pas, Eric. Siberia, brasserie pragoise qu'on a eu l'occasion de visiter il y a un peu plus de 2 ans quand on est monté à Prague pour les 40 ans d'Eric.
Tout à fait.
Et anecdote amusante, c'est que pendant que nous étions en visite de la brasserie, au même moment, une partie de l'équipe de Siberia était chez la Beer Academy en TTO justement, donc c'était assez cool, ils faisaient une tournée française.
C'est Siberia ou Siberia ?
Siberia peut-être. Siberia qui ont 2 bars à Prague que je vous conseille, dont on a fait un épisode hors série sur Prague justement, où on vous avait conseillé pas mal d'endroits où vous pourriez boire des coups, de trucs très sympas. Le Beer Geek, donc ils en ont un qui est un peu grand, un peu en sous-sol, où c'est plutôt bar que cave, où une tournée de Cantillon à 6,50€ m'avait fait halluciner. On était quand même 5 ou 6, tu vois. Donc voilà. Et ils ont aussi un bar, une cave.
A priori, il y aurait 3 maintenant, Beer Geek.
Ah, ils ont peut-être fait un troisième qu'on n'a pas vu.
Je vais enquêter.
donc voilà, et la 90 BPM, alors on va en parler, mais on n'a pas cette bière-là pour une raison simple. Je vous explique très rapidement. Vous savez que 90 BPM nous a pas mal arrosé avec des bières... on a eu la Flocon Millennium pour un futur épisode de Star Wars. On a eu la.
Ils en ont deux, d'accord.
Ils ont la Battlestar Galaxy Tra qu'on nous a envoyé également pour un futur épisode, ce Battlestar Galactica qui aura à peu près. Qu'on enregistrera aux alentours de 2029, le temps que Brice ait le temps de voir toutes les séries.
À peu près.
À peu près, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses. On a eu la Mazout, ne pas se jeter dedans, qu'on a fait l'épisode sur les nuls, sur la Cité de la Peur. Et récemment, donc, je suis allé sur leur site puisque j'ai découvert qu'ils avaient fait la Ice Dwight Root, donc sur laquelle on voit Dwight en caricature avec une betterave qui est une gauze en fait à la betterave évidemment et avec un autre fruit rouge, je ne sais plus si c'est myrtille ou mirabelle. Je vais le retrouver pendant que je cherche tout à l'heure. Et donc j'avais commandé sur leur site internet cette bière là parce que j'ai dit tiens, il me la faut absolument. Je l'ai trouvée récemment dans un VNB pas loin de chez moi. Je l'ai goûté. Le fruit rouge qui accompagne la bière, on le sent très peu. Par contre, la betterave, le côté théorique de la betterave, on le sent énormément, je dois avouer. Mais si vous aimez la betterave comme moi, vous allez kiffer. Si vous aimez moins, bon, ça va être... Voilà, betterave cassis laurier. Voilà, je cherchais le cassis. On ne sent quasiment pas le cassis, le laurier encore moins. C'est vraiment la betterave qui domine sur cette bière-là. Et donc, je devais la recevoir. J'avais acheté un set de bières, notamment pour nous, pour le podcast. Et en fait, les loulous ont vu la commande avec mon nom et mon prénom. J'ai bien marqué les bières narratives dessus. En fait, ils ont stoppé la commande.
Et ils nous ont dit, ils ne nous aiment pas. Et voilà.
Et ils nous ont dit, non, on va vous, et ils nous ont dit, on va vous rajouter des trucs. Et du coup, on vous rembourse même votre commande, on vous offre. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme nouveauté. À mon avis, des trucs sur lesquels on va pouvoir peut-être parler. Je sais qu'ils ont fait une dernière bière avec Donald Trump dessus. Donc la Donald Trump, double IPA, Talus, Mosaïque. Bon, il y a toujours l'autre Gandalf, on n'a pas encore parlé du Seigneur des Anneaux ou de Alf, ça pourrait être l'occasion. Voilà. Et j'ai commandé aussi, notamment, on va faire une émission sur les inconnus, puisque j'ai commandé la Youpi Matin. Voilà, pour celles et ceux qui connaissent le fameux sketch. Donc il y a quand même pas mal de trucs à faire avec eux. Et donc plutôt que vous parler de tout ça, j'en profite pour vous faire un très bref commentaire sur un événement auquel j'ai pu assister tout récemment. J'ai été pour la deuxième fois de ma vie de ma vie
comment
de mec dans la bière, j'ai été jury dans un concours. Alors, l'an dernier, j'ai été jury au concours de la foire agricole de Brignoles. Attention, je sais que je vous fais rêver, non mais Brice, ne sois pas jaloux, je te vois serrer le poing de jalousie en disant
c'est la Startup Nation. Voilà. Je dois avouer.
Non mais voilà, moi, les casseroles de Mediapart, un jour je serai ministre. Tu vois. Mais j'ai été jury cette fois-ci au concours Millésime Bio de Montpellier, donc un très gros salon dédié principalement au vin bio. Et c'est Elisabeth Pierre, donc Elisabeth Pierre qui est une des œnologues les plus reconnues du pays, qui est en fait une des plus anciennes du métier en fait chez nous en œnologie, qui a démocratisé les accords mets et bières en France notamment, puisque avant elle c'était Michael Beer Hunter Jackson qui l'avait démocratisé dans le milieu anglo-saxon. Donc Elisabeth Pierre a un petit peu suivi ses traces et a publié bon nombre de bouquins et des magazines, dont le magazine Morlu, dans lequel d'ailleurs moi-même j'écris. Et elle m'a invité à ce salon dans lequel je me suis retrouvé avec pas mal de gens assez cool, des œnologues, des brasseurs, des brasseuses, des patrons et des patronnes de bar, et des journalistes. Et donc on a eu l'occasion de tester en tout 150 bières, bon réparties entre nous, sinon on serait tous défoncés. Mais l'air de rien, j'ai quand même eu le premier jour une quinzaine de bières, je crois, de mémoire. Le matin, de 9 à 12, je vous avoue que ça pique un peu, donc j'étais content d'avoir le petit déj à l'hôtel. Voilà, donc c'était après le lendemain on avait un peu moins, donc moi je crois que j'avais eu de mémoire les ambrés à fermentation haute, à moins de 6-5%, enfin, c'était des catégories un peu précise, mais limite que des fois je trouvais un peu bâtard parce qu'il y avait des choix, qu'il y avait des bières où elles semblaient hors catégorie, donc c'était un peu particulier.
Donc oui, en fait, tu peux être premier sur la tranche des 12-25 ans qui saute sur un pied tous les matins de 6h32 à 7h23. C'est ça, c'est un peu ça le.
Il y avait des trucs où.
L'école des fans.
Ouais, non, mais des fois tu avais des trucs, c'était ambré, puis tu goûtes la bière, fais. Ouais. C'est une excellente bière blonde, tu vois, mais tu dis, ou c'est une excellente IPA, mais tu comprenais pas trop, tu vois, où était le côté des fois ambré du truc. Donc c'était assez particulier.
Ambré, faites comme chez vous.
Hein. Voilà. Donc ambré, c'est aussi un truc espagnol. Donc voilà, c'était très intéressant, l'occasion pour moi dans mon prochain le sujet brassicole donc du jour. De vous parler de ces fameux concours, justement. Est-ce qu'il y a une utilité? Quels sont les bons? Quels sont les mauvais?
Il y a les bons concours et les mauvais concours.
La France veut savoir. Mais avant, il faut qu'on parle de cette extraordinaire série qu'est The Office. Et je vais laisser la parole à mes deux compères, Eric et Brice.
Plus con que père, hein, pour l'instant. Aux dernières nouvelles.
Oui. Enfin, Brice, non, je crois pas.
Non. Je laisse le réarmement démographique aux autres.
Ah oui. Oui, moi aussi, j'avoue.
Alors, je vais vous parler d'une. Alors, on va commencer par les bases. On va poser les bases, comme on dit dans le monde des jeunes, que j'appelle les jeunes. Une comédie, on sait ce que c'est. C'est une série, on sait ce que c'est aussi. Quand on mélange les deux, on généralise souvent ça sous le nom de sitcom. En réalité, la comédie de situation, c'est la signification de, la, de cette dénomination sitcom, hein, comédie de situation, mais en anglais, voilà. Ça a pas mal évolué au fil des années et des pays. Il faut aussi se souvenir que dans les années 90, en France, Hélène et les garçons et Autre premier baiser étaient également appelés sitcom.
Oui, Monsieur Gérard.
Alors que pour moi, c'était plutôt du soap opéra à deux balles. Mais ça, c'est une
opinion. Un jour, on fera un épisode sur AB Productions.
Oh pétard, je te laisserai écrire le conducteur. Je m'en boirai.
T'inquiète, tu feras la bière, toi.
Exactement. Bon, en réalité, il s'agit d'une série assez humoristique dont l'une des principales caractéristiques, outre de faire rire logiquement, c'est de limiter le nombre de décors afin d'être plutôt économique. Par exemple, ça se passe dans un ou deux appart, dans un bar, dans un lieu de travail. De plus, historiquement, les épisodes font une vingtaine de minutes et ils étaient généralement tournés en public, d'où les fameux rires enregistrés. C'est pas qu'on enregistre des rires pour les passer en mode sample, machin, c'est qu'en général, à l'époque, ils étaient en mode théâtre. Dès que oui. La blague était drôle, ben, ça rigolait.
C'est vrai.
Voilà, point. Avec le temps, vu que le genre trouve ses origines dès les années 50 tout de même, le genre est passé par tous les styles. Principalement familial au départ, avec le cadre sacré de la maison Home Sweet Home comme décor principal, que ce soit dans une famille très traditionnelle tout d'abord, puis avec des éléments que je qualifierais de perturbateurs, comme un membre de la famille un peu hors norme. Les plus hors normes, ça va être ma sorcière bien-aimée, une sorcière. Mon martien favori, Ginny de mes rêves.
Oui, 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 c'est vrai.
Alf. Bref.
Salut, c'est Alf. Salut, c'est Alf.
Il peut y avoir aussi, pour animer un peu la série, un choc des cultures ou des âges. Arnold et Willy. La pauvreté, la richesse, le prince de Bel-Air, pareil.
Tout à fait.
Punking Brewster, un choc des âges, un vieux acariâtre avec une gamine.
Soleil Moon Frye.
Voilà. Voire même des classes sociales, Madame Servie.
Oui, qui a fait l'objet d'un article récent justement où on disait pourquoi, je crois que c'est toi qui l'avais republié.
Oui, c'était c'est Lina, je crois, qui a fait
Lina,
qui diffuse ça sur son service Madeleine, je crois, Madeleine, ouais. Madeleine. Et il y avait des reportages un peu d'éditorialisation du truc et qui expliquait que bah, finalement il y avait des côtés un peu avant-gardistes aussi, quoi.
C'est vrai.
Avec le mec qui prenait le rôle de la femme, une femme qui avait réussi dans la vie, la sexualité débridée de la mère, enfin, ouais. Bref, tout est...
Ah oui, oui, la mère d'Angela, c'est vrai.
Et dans un autre registre, on a également pu observer des sitcoms représentatifs de certaines minorités à l'époque. Cosby Show, avec Cosby qui est maintenant...
Le mec, il avait un rôle de gynéco. Il avait un rôle de gynéco, quand même, bordel. Putain.
Il y avait aussi La Vie de Famille, Ma Famille d'abord.
Oui.
Par exemple. Et après, bientôt, le cadre familial ne suffira plus aux gens et on va se retrouver au bar, comme dans Cheers, au boulot, comme dans Taxi, comme dans Scrubs, comme dans Spin City, ou dans un lycée, comme dans Sauvé par la Gang. La famille de sang sera bientôt remplacée par la famille dite, entre guillemets, choisie, avec des groupes d'amis. Friends, Seinfeld, How I Met Your Mother, Will and Grace, The Big Bang Theory, ou encore Les Craquantes.
Oh, Les Craquantes. The Golden Girls, elles ont même leur Funko Pop.
Oui,
il n'y a toujours pas les Funko Pop Sex and the City, mais il y a les Golden Girls. J'adore.
Avant, après. et le genre très économique laissera sa place parfois à de véritables séries avec plusieurs décors ou caméras pour les réaliser. Par exemple, la série de Larry David, Curb Your Enthusiasm, Larry et son nombril, c'est pas tourné dans un seul et même décor. Il y a des décors qui se répètent un peu, mais ça peut être dans des restos, dans des machins. Ça sort du cadre... stricto sensu d'une seule pièce.
Ce n'est pas une machine à café, c'est un vrai mot qu'il dit. La stricto sensu.
Donc le genre perdure encore sur les services de streaming avec des spin-off plus ou moins douteux. I Met Your Father, That's a 90s Show, La Fête à la Maison 20 ans après, des remakes parfois heureux. Je vous recommande One Day at a Time, Au fil des jours, je crois que c'est sur Netflix. De nouvelles productions plutôt basiques comme Blockbuster, comme Great News, The Crew, The Big Show, c'est très chiant à dire. Quoi.
Ok, The Big Show.
The Big Show, c'est sur un catcher et la vie de famille d'un catcher à la retraite quoi, de Big Show. Et quelques bonnes surprises, comme par exemple Unbreakable Kimmy Schmidt, qui avait eu son petit succès à l'époque.
Il faut que je la finisse cette série.
Mais ce qui alimente le plus ces services de streaming, ce sont tout simplement les rediffs.
Eh oui.
En effet, Netflix, Max, Paramount+, Disney+, ou encore Prime Video se disputent souvent les deux, trois plus grosses licences du genre, qui sont Seinfeld, Friends, ou encore The Office.
Exactement.
The Office est effectivement devenu un hit extrêmement disputé sur les marchés des droits. Mais revenons un petit peu en arrière. Ah, c'est pas le bon, c'est dommage.
Tu veux revenir en arrière, c'est
oui,
ça.
Oui, je voulais revenir en arrière.
Et oui.
Mais revenons un peu en arrière.
Mais oui, revenons un peu en arrière.
Waouh. Effet spécial.
Eh, c'est grâce au Tipeee, ça.
Dans les années 60, oui, j'avais dit qu'on revenait en arrière, un genre fait son apparition, le mockumentaire. Ou si l'on veut éviter ce néologisme traduisant bêtement le terme anglais mockumentary, le documentaire parodique. Alors ça démarre au Royaume-Uni et en France avec des sketchs d'humoristes comme les Monty Python, les Inconnus, ou dans des émissions comme Le Petit Rapporteur.
Oh, la ville de mon cul.
Cela atteint rapidement le cinéma avec par exemple Hard Day's Night en 64, mais c'est en 84 que le genre explose avec le film This is Spinal Tap de Robert Rainer, qui se révèle être un documentaire qui suit un faux groupe de métal. En 92, le genre fait parler de lui en France grâce à la comédie belge C'est arrivé près de chez vous et le petit Grégory
dans le cocktail.
Avec Benoît Poulvorde. Et plus tard, Sacha Baron Cohen qui relancera le style au ciné avec Borat. Au Canada, c'est à la télévision que le genre explose avec Trailer Park Boys en 1999, qui continue encore à ce jour. On peut trouver ça sur Netflix en France, si jamais vous voulez regarder. Moi, j'ai jamais vu. Tu l'as vu, toi, Nounours ?
J'ai tenté
quelques épisodes, j'ai eu du mal à accrocher, mais je me suis toujours dit que je réessayerais.
D'accord.
Parce que bah, peut-être vous allez en parler dans la trame de l'épisode, mais c'est un peu ce que j'ai fait avec The Office.
Ok.
Je l'adore, mais ça a été en deux fois quand même pour moi.
D'accord.
Donc peut-être que Trailer Park Boys, c'est un peu le même acabit.
Mais ça a quand même eu moins de succès au international quand même.
Oui.
Oui. En Angleterre, c'est en 2001 avec Ricky Gervais et Stephen Merchant que se lance ce genre de série où on suit sous la forme de documentaire la vie quotidienne des employés d'un bureau d'une filiale d'une entreprise commercialisant du papier dans la ville de Slough.
Oh, il a laissé pas le mot loupé, j'ai mis une phrase super longue exprès en plus. Hein.
Et là, il va dire, on le dit ici. Voilà, bravo.
Non, pas du tout. Ici, nous n'avons pas de rire enregistré. On est vraiment dans un genre de documentaire au sujet de personnages assez ordinaires de prime abord. Les têtes désormais connues sont au casting de cette série qui ne durera au final que deux courtes saisons. On a Ricky Gervais, bien entendu. Martin Freeman, que vous avez vu dans Sherlock et dans Bilbo le Hobbit. Lucy Davis, qu'on a vu dans Shaun of the Dead, dont nous avons parlé dans le troisième épisode de notre podcast. Ça commence à en faire. Été 2021, le troisième épisode,
ouais.
Si je ne m'abuse. Ouais.
C'est pas comme si c'était écrit dans le conducteur.
Oh,
la magie du
diable. Oh putain, c'est magique.
Il a marqué ouf, t'as pas dit ouf.
J'ai pas dit ouf. Bah non, je suis pas ouf, moi, monsieur. Et enfin, Mackenzie Crook. Qu'on a vu dans Pirates des Caraïbes, mais alors je ne sais pas dans quel rôle.
Tu vois ce duo d'anglais, un qui est petit chauve, l'autre qui est un grand tout maigre avec un œil de verre.
Oui.
Voilà, les deux pirates débiles qu'on retrouve dans tous les épisodes. Voilà,
c'est le petit ou le grand ?
Le grand.
Ok. La série attire l'attention aux États-Unis et Ricky Gervais et Stephen Merchant se voient contactés par un certain Greg Daniels, auteur du Saturday Night Live et des Simpsons, qui leur demande d'adapter le concept pour les USA. Avec leur participation, bien entendu. La série prendra cette place donc en Pennsylvanie, dans la petite ville de Scranton, et toujours au sein d'une entreprise de papier nommée cette fois Dunder Mifflin. Si la première saison se révèle un petit peu poussive, très calquée sur la version britannique et donc peu adaptée à l'humour américain, la mayonnaise finit par prendre et durera la bagatelle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saisons.
Bon, c'était un peu long quand même.
That's what she said.
Pendant que vous continuez, je vais nous servir notre bière.
Teamwork.
Ah, serre-nous la teamwork.
L'air de rien, on en a. Bon,
je vais chercher les autres,
trois.
Du coup.
On en a que deux, du coup, je crois. Ou non, la SYTU, du coup, on l'a pas encore. Voilà. Donc on en a une deuxième. Mais je vais ouvrir, du coup, dès maintenant.
C'est une canette. Petite pause bière.
Petite pause bière, Eric.
Et après, je vais un peu vous raconter. Qui est quoi dans cette série quand même pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre avant d'appuyer sur le bouton
pour aller. Voilà, et je vous mets un petit extrait du minute 30 le temps que Brice revienne et qu'on serve les bières.
Allez. En VF.
Il s'appelle Le Retour de Toby.
Tu les avales tout rond ou quoi ? T'as vu à quelle vitesse tu manges ? C'est à peine s'ils touchent ta langue.
Mais si, c'est des brownies ? Pâtisserie cubique bourrée de graisse et de sucre. Désolé, je garde mon bœuf séché.
Pourquoi t'es venu alors ?
Pour faire du social et informer.
Ouh, des brownies. J'en prends deux. Je les couperai en tout petits morceaux et je les grignoterai après le travail. Je trouve ça beaucoup plus sain.
T'en prends deux?
Oui, mais il y en a un pour Toby.
Ah oui. Et pourquoi tu ne lui envoies pas au Costa Rica?
Je préfère aller le lui donner en personne.
C'est ça, bizarre.
Pourquoi vous dites bizarre?
Elle a dit qu'elle lui donnerait en personne.
Ça paraît assez logique, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre.
Ils étaient l'un à côté de l'autre.
Toby retravaille ici.
Oh, arrête, tu imagines ça?
Non. Vous êtes pas au courant?
Au courant?
De quoi? Allez donc faire un petit tour dans les bureaux, là-bas derrière. Et regardez s'il est là, si vous voyez Toby.
Oh, ce serait l'horreur. Je vais aller voir, je joue le jeu. Oh, s'il était là, t'imagines? C'est une blague efficace, Jim. Tu m'as fait revenir dans l'annexe.
Bonjour, Michael.
Non ! Non ! Non ! Pas ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non !
Voilà, cet extrait extraordinaire, qui est beaucoup mieux en VO, parce que...
Les non, doubles, non, non.
On vous met des extraits en français, parce que sinon, ce serait un peu pas radiophonique, hein, déjà qu'on n'est pas très radiophonique.
Sauf si vous parlez anglais, mais en voilà, fait, on ne sait pas.
On ne sait pas si vous parlez anglais ou pas.
Écrivez-nous pour nous dire si vous parlez anglais.
La VO est...
Écrivez-nous en anglais, hein, c'est plus drôle.
La VO, forcément, est beaucoup mieux que la VF, même si je dénigre pas le travail des doubleurs. Mais
comédien de doublage, monsieur.
Comédien de doubleur, excuse-moi. Mais toutes les intonations, tout ça, le côté spontané du mockumentary sont évidemment beaucoup plus agréables, on va dire, à écouter en VO plutôt qu'en VF. Et donc.
Alors, je vais un peu vous récapituler un peu le nom. Et c'est quand même pas mal de personnages au final.
Oui.
Donc, on va en faire un petit point. On va faire le trombinoscope. Le principe, c'est de faire le trombinoscope des personnages que vous allez pouvoir retrouver dans cette fameuse série The Office. Parce que c'est quand même les personnages qui vont créer tout le sel.
Exactement.
De la série. Parce que bah, les situations absurdes qu'il va y avoir vont forcément. Mais est-ce qu'avant ça, avant d'attaquer ce trombinoscope. On goûterait pas.
Exactement ce que j'allais te dire. Donc là, on a servi notre petite saison de Siberia, dans la Teamworks avec on collab Blade Brut. Donc on a une belle mousse bien
persistante.
Persistante, ouais. Qui fait de très jolis petits beer monsters autour du verre. On a une petite couleur, une belle carbo. On a une couleur un peu dorée, ambrée.
Quand tu dis une belle carbo, je vois des pâtes.
ouais, j'adore la carbo aussi.
Miam miam.
Ils sentent très bon. C'est un peu au côté un peu fruité, j'aime beaucoup.
Mmh. Mmh, pas mal en goût.
Le goût est très bon. On est sur une bière qui titre à combien 5,9. Elle a un arrière-goût un tout petit peu liquoreux, je trouve. Un petit peu alcool.
Genre. Plus alcoolisé que. Enfin, ouais, en goût.
En goût que ce qu'on a eu auparavant. Mmh. Mais non, franchement, très 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 bien cette bière. Très très bonne bière, ouais. Ouais. Voilà. Bon choix, bon choix.
Parfait pour se rincer le gosier avant de pouvoir parler de The Office.
Mais oui, mais oui.
Donc, trombinoscope, on attaque. Parce que, voilà, les storylines et les love stories et les gags, etc., les rivalités, ben, ça part des persos. Donc, en premier, on va parler de Michael Scott, qui est interprété par Steve Carell. Steve Carell que vous avez vu dans des films.
Beaucoup de films. Bah, alors, on l'a vu en premier. Moi, la première fois que j'ai vu, comme beaucoup de monde, c'était dans, en France, en tout cas, c'est dans Bruce Tout-Puissant.
Tout à fait.
Où il fait le blablabla, donc qu'il a fait finalement fait révéler au grand public, mais il aura même eu sa suite quelque part, qui a moins bien marché du coup, mais Evan Tout-Puissant.
Evan Tout-Puissant. Mm. Et toi, Brice, pareil ?
Non, pour moi, je sais plus comment s'appelle le titre du film. Crazy Night, voilà.
Ah, c'est pas Crazy Stupid Love ?
Non,
Crazy Night, c'est un film avec Tina Fey.
Alors je confonds, mais oui, ça doit être Crazy Stupid Love. Alors ouais, ça doit être ça.
Moi qui suis pas très comédie romantique, qui est une très bonne comédie romantique avec, je crois de mémoire, c'est Amy Adams, Julianne Moore et Ryan Gosling. Il y a une espèce de quatuor triangle amoureux. Enfin, c'est assez fun et c'est très drôle. C'est très, je trouve que c'est très bien écrit. C'est assez bien.
Mais donc, bon, Michael Scott, interprété par Steve Carell, qui a joué dans pas mal de films, du coup.
Et oui, 40
le,
toujours plus.
Et qui joue le manager, un personnage attachant et sensible au centre de l'histoire, qui a besoin d'être aimé et qui, pour cela, franchit un peu souvent les limites. Il reste un personnage majeur qui considère ses employés comme des amis, voire même des enfants. Mais bien souvent, il va aussi agir comme un salopard hyper égoïste ou un gamin qui veut tout faire pour parvenir à ses propres plans, pour oui. aller à la direction, pour faire du chiffre, ou pour juste paraître sympa auprès des employés. Quoi.
Oui, oui, oui.
Avec une certaine folie des réunions. Mais
on la réunionite aiguë de Michael Scott, ouais.
Voilà. Nous avons en deuxième personnage Dwight, interprété par Rainn Wilson, que je n'avais pas vu spécialement avant, ou tout de même pas reconnu. Quasiment le second personnage le plus important du show, un espèce de mélange d'immigrés allemands, intelligent et totalement asocial, style Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Un peu bouseux comme un redneck, avec des traditions qui oscillent entre la parodie d'Amish, les Allemands et les rednecks.
C'est un sacré trio.
C'est bizarre. Hein,
mais oui, c'est ça.
Il est toujours dans l'abus le plus total et n'accorde que très peu de place à l'amitié, à la sympathie, tout du moins même à la vraie vie de bureau. Ouais. Voilà. C'est un mâle alpha qui se cherche, mais qui n'a pas la gueule d'un mâle alpha. Et qui n'a surtout pas su le prouver aux yeux des autres. Surtout à un certain Jim, qui ne cesse de lui faire des blagues et de jouer sur son impulsivité, son petit côté autiste, un peu hilarant. Et d'ailleurs, ce Jim est interprété par John Krasinski, mm-hmm. et qui depuis est devenu célèbre pour avoir été le réalisateur de Sans un bruit, par exemple, mm-hmm. Quiet Place. Et il a joué dans le... Doctor Strange...
Oui, il a joué le docteur, le Captain Fantastique.
Mister Fantastique.
Mister Fantastique.
Dans ce monde parallèle.
Et il a surtout repris le rôle de Jack Ryan dans la série sur Amazon Prime, dont j'avais fait la reco, justement. Très, très bonne série.
Tout à fait. Donc lui, c'est l'autre pilier. C'est un vendeur. Il est vendeur comme Dwight, mais il est plus jeune, plus grand, un petit peu plus beau gosse, mais pas vraiment non plus. Il est amoureux de Pam, la réceptionniste, et va au fur et à mesure de la série évoluer de jeune cadre à père de famille entrepreneur. Mais ça, vous le découvrirez en regardant la série. Et d'ailleurs, Pam, interprétée par Jenna Fischer, c'est le love interest de Jim. C'est une jeune fille bien sous tout rapport, un peu ennuyeuse, un peu timide, un peu jolie. Elle ne fait pas de vagues et a du mal à s'affirmer. Elle est d'abord réceptionniste au début de la série et commencera à partir de ce rôle-là pour devenir vendeuse, comme au même titre que Dwight et Jim. Et Melo sera un peu à un moment donné artiste. Et plus ou moins, on verra ses traits de caractère s'affirmer au fur et à mesure des saisons.
Oui. Jenna Fischer, du coup.
Jenna Fischer, tout à fait. Après, nous avons Oscar, interprété par Oscar Nunez.
Oui, ils ne sont pas trop vêchés sur certains noms.
C'est
hein,
exactement. Vous allez voir, hein. Qui est un comptable et homosexuel. Aucun lien physique. Et il incarne un des personnages les plus sensés et raisonnables, mais nous montrera d'autres aspects de sa personnalité plus tard dans la série. Son homosexualité sera souvent mise sur le tapis alors qu'il est très loin du cliché homo, comme on pourrait l'avoir dans d'autres séries, style Unbreakable Kimmy Schmidt,
Titus,
par exemple.
Ah oui, oui, c'est clair.
C'est plutôt la voix de la sagesse dans la série.
Oui, c'est vrai.
On a Angela, interprétée par Angela Kinsey, comptable elle aussi, elle possède des tas de chats, est rigide comme un bâton et ne supporte rien ni personne, quasiment. Elle est associable, hautaine et aimée. Elle évoluera quand même au cours de la série, vous verrez. Si vous la regardez, évidemment. Hein,
oui.
Vous ne verrez pas grand-chose devant votre podcast, hein, je suis désolé. On a ensuite Kevin, interprété par, et non pas Kevin, Brian Baumgartner. Encore un comptable, il ne vit que pour la bouffe et les ragots. C'est un peu l'homme enfant, il parle comme un gamin, il rit comme un gamin. C'est un peu l'ado, un peu. L'ado nounours, un peu.
Il est extraordinaire, ce personnage.
Un peu gentil, un peu attardé, mais c'est quand même un perso des plus notables de la série, des plus cultes.
Il n'est pas si attardé, mais il y a un personnage qui croit qu'il est attardé pendant tout un épisode et ça va mourir de rire.
Autre personnage, on a aussi Meredith, interprétée par Kate Flannery, la femme qui n'a peur de rien, mère de famille célibataire, dévergondée au possible, voulant se faire sauter par tout et n'importe qui, voire n'importe quoi. Elle écoute du motorhead à fond dans son van, n'a aucune pudeur. Ses scènes sont peu nombreuses, mais assez iconiques. Ensuite, nous avons Creed, interprété par... Creed Barton.
Creed Barton, oui.
Bratton, pas Barton.
Bratton, pardon. Ouais.
Le vieux, il ne sait pas trop ce qu'il fait là, on ne sait pas ce qu'il fait, lui non plus. Et surtout, il connaît beaucoup trop de choses sur les trucs illégaux, les substances et tout. Et chacune de ses interventions soulève quand même des questions sur qui est ce gars-là.
Il y a des extraits incroyables avec Creed. En fait, ça me semble qu'il y a peu de répliques, mais alors à chaque fois qu'il en a une, il te scie le mec, mais surtout, il te fait peur.
Ensuite, il y a Daryl, interprété par Craig Robinson, qu'on a revu depuis dans l'excellente Brooklyn Nine-Nine. Mmh. C'est le gérant de l'entrepôt, c'est un employé un peu modèle. Hyper compétent, fan de sport, il deviendra un pote de Jim et il n'aura cesse de supporter les remarques malaisantes et maladroites sur sa couleur de peau par Michael. Et c'est un personnage qui va devenir petit à petit, il va devenir central au fil de la série, vers la fin de la série. C'est-à-dire qu'il il va prendre un peu le rôle d'un Jim bis, plus ça avance. Quoi.
C'est vrai.
Après, on retrouve Andy qui viendra un peu plus tard dans la saison suivante, interprété par Ed Helms, que l'on a surtout découvert en France dans Very Bad Trip.
C'est le dentiste.
Si c'est le dentiste, voilà. Il est arrivé en cours de route, c'est le gars banal, venant d'un milieu aisé, toujours en quête de reconnaissance et de célébrité. Il en fera d'ailleurs son leitmotiv au fur et à mesure de l'évolution de son personnage. Il est attachant, un peu égocentrique, pas mal impulsif, et même s'il va évoluer, si le personnage va se densifier au fur et à mesure de la série, on va dire qu'il est un peu un ersatz de Michael, quelque part.
Ouais.
Ensuite, il vous reste Erin, interprétée par Ellie Kemper, que l'on retrouvera justement dans Unbreakable Kimmy Schmidt, dans le rôle de Kimmy. Elle est arrivée aussi en cours de route, c'est celle qui remplacera Pam au rôle de réceptionniste, et qui va séduire bon nombre de personnages masculins, tout en étant à la fois naïve, on va dire le presque le personnage de Kimmy Schmidt plus tard.
Oui, ah oui, mais elle ressemble beaucoup à Kimmy Schmidt dans le personnage Erin.
Exactement. Elle voit un peu en Michael une sorte de père spirituel, quoi.
Bah, elle est orpheline, du coup.
Bah, c'est vrai, c'est pas faux. On retrouve aussi Stanley, interprété par David Baker, un personnage de fond de la classe en quelque sorte. Il se fout de tout et il attend sa retraite. Et franchement, il attend sa retraite.
Hein. Ah oui, oui.
Il se passerait bien des élucubrations de ses collègues. Son but est de ne pas en branler une et de manger tranquillou. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est un peu le résumé que je peux faire de ce gars-là. Trois derniers personnages. Kelly, interprétée par Mindy Kaling, qu'on a revu depuis dans The Mindy Project. C'est une des plus jeunes, c'est une Américaine d'origine indienne qui ne connaît rien à sa culture, mais qui connaît la vie des célébrités par cœur. Elle est égocentrique, égoïste, superficielle, elle a un côté pervers narcissique hyper développé. Elle est super détestable et elle veut gravir les échelons à part tous les moyens. Et dans le même genre, Ryan, interprété par B.J. Novak, qui, pour l'anecdote, a eu son diplôme en 1997 dans la même école que John Krasinski, Jim, qu'on a parlé tout à l'heure.
B.J. Novak, vous avez vu dans Inglourious Basterds.
Tout à fait. Et je l'ai vu dans son premier film, enfin, tourner son premier film et être dedans, Vengeance.
Ok.
Voilà, je l'ai vu au stage, je suis même pas sûr qu'il soit pas ressorti. D'accord. c'est l'anecdote vraiment inutile. Quoi. C'est un peu l'alter ego de Kelly, donc Ryan, c'est le stagiaire, en tout cas au début, qui est allé dans l'ombre, qui n'a aucun scrupule, c'est en fait le gros con, en fait, c'est qui cherche à réussir à tout prix et qui, pour le plus grand plaisir du public, n'y arrivera pas forcément comme il le souhaite.
Mais qui reste, pour une raison qu'on ignore toujours dans la série, vraiment, adulé par Michael Scott.
Oui.
C'est en point que ça en devient, bon, c'est l'adage de la série d'être malaisant, mais en point que ça devient malaisant pour Ryan, en fait.
Ouais, c'est clair.
Et le dernier, pas des moindres.
Et pas des moindres, le fameux Toby dont on a entendu parler dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Alors, Toby, qui est interprété par Paul Lieberstein, qui est à la fois acteur, scénariste, producteur de la série, et qui en réalisera même 7 épisodes. En fait, c'est le droupie du staff. Il est au RH et il est détesté par Michael, comme on l'a entendu tout à l'heure. Qui voit en lui l'incarnation de tout ce qu'il est dans la vie. Alors qu'en fait, c'est un genre un gars très calme, un peu paumé et un peu bof, un peu pathétique, quoi.
Ouais, voilà, il est gentil.
Et on passera la série à vouloir le secouer tellement il est mou, quoi. Mais ah, oui, voilà, c'est tout. C'est... Donc voilà, tous ces personnages.
Ça en fait beaucoup.
Ça en fait beaucoup. Mais par contre, leur interaction.
C'est un peu le point fort de la série. Hein. Tous les personnages qui seront développés à un moment ou à un autre. La série n'est rien sans cette écriture fournie de ces personnages. Et comme nous le disions, avec beaucoup de personnages, il est difficile de donner de sa place à tout le monde. De manière égalitaire, du moins. Du coup, on capte vite sur qui se concentre l'action. Toutefois, comme on a dit, hein, les personnages secondaires, ils ont chacun leur petit moment de gloire, de comédie, ce qui fait qu'on se souvient d'eux. Donc, par exemple, Creed, dont vous parliez tout à l'heure, qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait là, qui c'est. Très effacé au départ, on va nous révéler au fur et à mesure des petits traits mystérieux de sa personnalité jusqu'à l'apothéose finale. Et certains passages de l'acteur, même s'ils sont très courts, sont très marquants et absolument hilarants. Kevin aussi n'est pas en reste, avec le côté simplet, qui, comme tu disais tout à l'heure, va même faire qu'à un moment, il va croire qu'il est réellement attardé mental, et le quiproquo est à crever de rire tant il est bien amené. car en fait Kevin est juste un gros naïf bêta, mais pas du tout un attardé, comme certains des autres personnages de la série d'ailleurs. Dwight est le personnage le plus abouti. Si Michael est très malaisant mais cohérent dans son évolution, Dwight est complètement barré et on a du mal à suivre où il va aller. Pourtant, son évolution personnelle, que ce soit sur le prisme amoureux ou amical, ça aboutit sur un petit happy end tout en douceur qui ravit les fans. J'imagine que ça t'a plu à toi aussi, Greg.
Ah oui, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Très, très belle fin. Très belle fin.
Jim et Pam sont au final les plus fades. C'est les personnages les plus normaux, en fait, rationnels. Ils arrivent à jouer sur la crédulité des autres et s'éclatent à faire leurs blagues. Les pranks de Dwight sont à. Les pranks sur Dwight sont à mourir de rire à chaque fois. Leur évolution la plus logique de toutes sera le fil rouge de la série sur les 9 saisons.
Oui, c'est eux, en fait, qui ont le fil rouge complet sur la. La série, d'ailleurs, on le voit à la fin, puisque là, je ne spoil pas la fin, mais en gros, le but de la série, c'est un documentaire qui doit être diffusé au bout de X années. Donc, à la diffusion, bah, les gens comprennent bien que Jim et Pam sont les, entre guillemets, les chouchous et qu'autour d'eux gravitent d'autres personnages. Quoi.
Ouais, ouais.
Surtout que Michael Scott quitte la série au bout de 7 saisons. Donc, on va y revenir après, je pense, mais.
Le reste du cast est hyper bien dosé dans l'écriture. On arrive au point où chacun de personnages, quand, malgré qu'il y en a un paquet, devient mémorable. Que ce soit Stanley, ses mots croisés, Angela qui lèche ses chats, Phillips qui se dévergonde.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Phyllis, on a oublié Phyllis.
Qui se dévergonde à chaque saison, ou encore Oscar qui affirme son homosexualité et l'évolution de celle-ci. Impossible de ne pas s'y attacher au final à tous ces personnages. On s'attache à toute l'équipe et pas juste à un seul des employés présents. Chez Dunder Mifflin.
Du coup, tu vois, on a tellement de personnages qu'on a oublié Phyllis, c'est vrai.
C'est vrai.
Donc, du coup, je vous fais un rapide qui est Phyllis. Donc, Phyllis qui est interprété par Phillips Smith. Donc, voilà, ça se montre pas. Donc, dans la série, en fait, c'est un petit peu. Alors, c'est la mamie.
Maman.
C'est
la maman. Mamie, ouais.
C'est une femme bah, avec des lunettes, qui a l'air gentille.
Susan Boyle.
C'est une sorte de Susan Boyle.
Susan Boyle, ouais.
Tu vois, elle est alors, une femme ronde, tu vois. Un peu la mamie, tu vois, et tout. Mais qui, malgré tout, a son apparence de mamie, a le même âge que Michael Scott, parce qu'ils ont été dans la même école, et qui est mariée à Bob Vance, Vance Refrigeration, qui est la société, en fait, en face. Et en fait, il s'avère que c'est un personnage qui est finalement assez haut en couleur, puisque c'est celle, en finale, avec Dwight, qui va baiser le plus dans les bureaux. Donc, voilà. Et pour l'anecdote, parce que du coup, une anecdote petite que j'ai voulu, c'est que l'actrice de Phyllis, qui joue Phyllis, était, parce qu'on la voit comme une mamie, à la base, elle faisait des shows, elle était danseuse. Mais danseuse, genre, tu sais, un peu genre ouais, Moulin Rouge, exotique. Quoi. Danseuse un peu exotique, voilà. Mmh. Elle était comme ça avant. Voilà, pour l'anecdote Phyllis Smith, du coup, qu'on a oublié, parce qu'effectivement, il y a tellement de personnages que, bah voilà, exactement. On en a oublié.
Ouais, bon,
ça arrive, mais.
Ça arrive d'oublier de mettre la puce enregistrée aussi, des fois.
Et oui.
Donc, pour ceux qui vont vouloir s'attaquer à la série, donc dispo sur Netflix, j'ai déjà évoqué que la première saison de cette version américaine de The Office cherche ses marques et que cela rend un peu difficile d'accès la série au premier abord. Néanmoins, on s'attache très vite à ce manager très cringe qui est Michael Scott. Et qui est rapidement présenté comme quelqu'un de plus maladroit que réellement méchant. Au pire, juste ignare. La plupart des situations comiques se révéleront en fonction des facilités de ce manager, avec souvent, comme dans la vraie vie, des conséquences sur ses subordonnés, les autres personnages de la série. Le problème, c'est que Steve Carell, l'interprète de Michael Scott, au même moment que le décollage, que la série décolle, ben, sa carrière décolle aussi. Et en fait, l'année précédant le lancement de The Office, il apparaît déjà dans une production de Judd Apatow, Anchorman, The Legend of Ron Burgundy.
Rick, je crois, il joue Rick.
Ouais.
Extraordinaire personnage dans Anchorman que je vous conseille également.
Et dès 2005, il enchaînait un rôle dans Melinda and Melinda de Woody Allen et un autre central dans 40 ans toujours plus chaud dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours de Judd Apatow. Mm-hmm. En 2006, c'est Little Miss Sunshine. En 2007, Evan Tout-Puissant, où il reprend son personnage de Bruce Tout-Puissant. Et par la suite de Jim Carrey. En 2008, il joue Max dans l'adaptation ciné de la vieille série Get Smart, plus connue chez nous sous le nom Max et la menace. Et en 2010, c'est dans Date Night.
C'est celui dont tu parlais, Brice.
Avec Tina Fey. Et lui, également Night. L'adaptation US du Dîner de con, Dinners of Schmucks, qu'il apparaît. Et c'est surtout dans Moi, moi, je suis méchant qu'on entend sa voix dans le rôle de Gru. De fait, il lui a été progressivement de plus en plus difficile de rester à l'écran chaque semaine dans The Office. Et au bout de 6 ans, l'acteur tira sa révérence, non sans bénéficier d'un départ assez touchant. La gageure pour la production sera pour les 3 saisons suivantes de renouveler l'intérêt du public pour une série toujours en forme, mais qui commence à vieillir malgré tout, et qui vient de perdre son personnage principal, ce qui est quand même pas rien. Les choix faits par les scénaristes, que je ne spoilerai pas non plus, seront néanmoins assez astucieux pour une certaine continuité. Tout en jouant la carte guest star de luxe dans des rôles réguliers, comme avec James Spader, qui jouait Daniel Jackson dans Stargate le film, qui a joué dans The Blacklist, dans Boston Legal.
Avengers Ultron, il jouait Ultron.
Il doublait Ultron dans Avengers. Si on prend Katie Bates, Annie dans Misery, qui a joué dans American Horror Story aussi et dans Mon Oncle Charlie, ou encore Catherine Tate, dont on a réentendu parler dans avec le 60e anniversaire de Doctor Who dernièrement.
Ah oui, elle était dans Doctor Who à la base, elle, ouais.
Oui, enfin, elle a fait une saison de Doctor Who, et là ouais. Elle est revenue en même temps que David Tennant pour les 3 téléfilms.
Spoiler !
Un peu. Sans parler des entretiens de recrutement de la fin de la saison 7 pour le poste de manager, où passeront une tête Will Arnett, Arrested Development, BoJack Horseman, Ray Romano, Tout le monde aime Raymond, Jim Carrey, Dumb and Dumber, The Mask, Full Irene pour les comédies les plus connues, Ricky Gervais, le Michael original.
Ils sont dans son rôle du Michael original.
Exactement. Et même le véritable homme d'affaires, Warren Buffett. Donc, bon, il y avait quand même du lourd. Ce qui sera sans doute encore plus ces 3 dernières saisons, ce sera le rééquilibrage de l'importance des autres personnages dans l'histoire qui verront progressivement leurs arcs narratifs personnels avancer. Même l'équipe de tournage du documentaire, qui est censée être The Office, prendra de l'importance et révélera de plus en plus sa présence à l'écran, avant un final tout autant en apothéose qu'une mise en abîme bien pensée. Le documentaire a depuis laissé des traces à la télévision, d'abord avec une série qui peut être considérée comme une petite sœur à The Office, la série Parks and Recreation, avec une partie des mêmes producteurs. Et plus récemment, c'est What We Do in the Shadows, tiré du film du même nom de Taika Waititi, le réalisateur de Doctor Who.
Que j'ai même fort recommandé sur ce podcast.
Exactement. Pas tort, hein, What We Do in the Shadows. qui a repris le procédé dans une maison de vampires. Et évidemment, vous pensez, quant à vous, peut-être aussi à Modern Family, qui reprend également le système pour dépeindre la vie de quelques familles à travers un faux reportage, et qui aura duré pas moins de 250 épisodes sur 11 saisons.
La série est finie ?
La série est finie.
Mais je veux la commencer du coup.
Okay. Mais je suis personnellement passé à côté, car une fois le pilote visionné, j'ai énormément pensé à la série française Fais pas ci, fais pas ça, dont le premier épisode était sorti 2 ans plus tôt sur France 2. Si la série a abandonné le procédé mocumentaire en saison 2, Fais pas ci, fais pas ça, on peut lui reconnaître la primeur du concept adapté à la sphère familiale. Chose que n'ont pas fait les Américains de Modern Family, quelles que soient les qualités de sa dernière. Pour terminer, si en France, on semble être un peu passé à côté du phénomène The Office en comparaison des USA, et ce malgré une tentative d'adaptation locale sur Canal+, avec François Berléand et nommée Le Bureau.
Elle est malaisante cette série, mais parce qu'en fait, c'est une mauvaise adaptation, c'est ça qui est terrible. Elle est malaisante sur du malaisant. C'est...
Il faut vraiment aller se balader outre-Atlantique pour se rendre compte de l'importance de la pérennité de la série à minima en termes de merchandising, qui égale presque celui d'une série comme Friends. Pour Noël, vous pouvez trouver des boules de Noël The Office.
Que j'ai eu.
Des pulls moches de Noël The Office. J'ai personnellement un pyjama à The Office que j'ai acheté là-bas.
Oh,
il y a des bouquins sur la série The Office. Il y en a un ici.
Que j'ai amené, ouais,
vous avez même des bouquins pour enfants à colorier.
Oui.
The Office.
Oui.
Donc pour vous dire.
Il y a un bouquin d'histoire pour enfants où, en fait, quand vous regardez ce bouquin pour enfants, justement, dans chaque image du bouquin, vous les voyez faire des trucs différents. Il y a Creed qui regarde, qui te regarde en fait et qui bouge pas. Vous voulez le personnage de Creed, voilà, c'est un peu ça.
Et donc, franchement, et ça, vous trouvez ça en supermarché. C'est pas comme s'il fallait aller dans une boutique geek ou machin.
C'est vrai.
Non, non. Vous trouvez des t-shirts d'Under Mufflin ou un pantalon de pyjama d'Under Mufflin en rayon normal, comme ça. Point barre. Donc, vous imaginez un peu le succès de la série. Et vous pouvez aussi écouter un documentaire audio sur la série sur Spotify, par Brian Baumgartner, Kevin himself, ou un podcast nommé Office Ladies, où Jenna Fischer et Angela Kinsey, Pam et Angela dans la série, commentent les épisodes avec pas mal d'anecdotes. Et s'il vous faut autre chose pour être convaincu, sachez que même Billie Eilish est fan de la série. Par contre, le fait que Joe Biden vienne de Scranton n'a en réalité rien à voir. Quoique.
Quoique. Ouais, bah, vu le personnage aussi. Et donc ouais, moi j'ai quelques petits trucs du coup en anecdote, parce que voilà, moi je suis un... Je suis un très gros fan de The Office, effectivement. Et donc, pour l'épisode, je vous ai amené justement, bah, j'ai un petit Funko Pop avec Dwight. J'ai les deux mugs, le fameux World Best Boss que présente Michael Scott dans les premiers épisodes, le fameux mug d'Under Mifflin Paper Company. Et également les DVD avec un bouquin donc, que j'ai. Alors, il y a d'autres bouquins qui sont sortis que j'ai chez moi, mais il y a celui-ci qui s'appelle The Office, The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, par Andy Green, qui est, voilà, que j'ai pas encore démarré, mais qui m'a été fortement conseillé, donc du coup que j'ai acheté. Donc comme tu le disais Eric, il y a le podcast donc, de Brian Borkander qui s'appelle An Oral History of the Office. Brian Borkander qui a écrit du coup un bouquin suite à ce podcast et qui a ouvert du coup un autre podcast. Et donc Angela Kinsey et Jenna Fischer, comme tu disais, donc ont leur Office Ladies podcast. Il faut savoir que dans la vraie vie, Jenna Fischer et Angela Kinsey, donc Pam et Angela, sont chacune les marraines de leurs enfants respectifs. Et que Angela est la voisine de Creed dans la vraie vie.
D'accord.
Ils sont voisins. Et donc régulièrement, ils organisent en fait des réunions où ils se voient tous. Il y a même des fois Steve Carell qui passe une tête. Et
une tête,
voilà. Non, mais voilà. Et c'est vrai que la série, donc, comme disait dans la sitcom à la fin dans le dernier épisode, Pam dit en gros, Jenna Fischer pendant 10 ans de la série, ils ont réussi à faire de quelque chose de juste basique, qui n'a rien de fou. C'est des gens dans un bureau qui vendent du papier, une histoire qui arrive à la fois parfois à vous faire tirer une larme, notamment quand Michael Scott s'en va. À la fois vous faire mourir de rire, à la fois à vous scandaliser sur certains trucs que va faire Michael. Et en fait, c'est là où moi, par exemple, tu vois, moi j'ai été fan de la série, mais je m'y suis pris à deux fois parce qu'effectivement, dans la petite histoire, donc, The Office a failli ne jamais excéder la première saison. Parce qu'en fait, ils ont adapté littéralement la première saison sur le modèle anglais. Sauf qu'en Angleterre, l'humour anglais marche très bien, mais l'humour anglais, comme on le sait tous...
Il est très anglais.
Il est très anglais, donc c'est soit vous aimez l'humour anglais, soit vous n'aimez pas. Il y a des gens qui vont détester The Office, détester Monty Python, détester Benny Hill, et par exemple, pour citer qu'eux, et qui vont adorer d'autres trucs. Et c'est vrai que mettre cet humour anglais aux États-Unis, ça n'a absolument pas marché la première saison. Et Greg Daniels, en gros, a un petit peu joué des coudes avec Mercant et Gervais en disant « Essayez de nous donner une deuxième chance, en fait. » Et donc, les scénaristes leur ont dit « Ok, mais par contre, adaptez votre scénario désormais à un modèle plus américain. » Et donc, c'est là qu'ils sont allés sur des modèles américains. C'est là qu'on voit aussi la différence. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, donc, tous les personnages, comme on le disait, étaient bien équilibrés. C'est-à-dire que certains ont que très peu de répliques. Mais ils suffisent à être mémorisables. Kevin, on l'entend, il a que quelques lignes en fait par épisode. Il y a que quelques rares épisodes vraiment où vous voyez un peu Kevin un peu au-delà de l'affiche, notamment le fameux épisode où un des personnages le prend pour un attardé mental, où là il suit une sorte de fil rouge. Vous avez le personnage de Meredith qui elle a 2-3 épisodes où en gros elle laisse échapper un sein, elle laisse échapper son cul, et en fait ça a carrément été des Funko Pop sur ça parce qu'à chaque fois évidemment c'est flouté, et en fait dans l'écriture ils sont allés des fois très loin. C'est, je vous donne un exemple d'un épisode parce qu'il y en a tellement, où ils sont allés loin dans le suivi même des trucs. C'est que par exemple il y a un épisode où il y a une chauve-souris qui rentre dans le bureau, et donc ils essaient en fait de la chasser tout ça, et à un moment donné elle se prend dans les cheveux de Meredith, et on a Dwight qui, je crois, enferme Meredith de mémoire et qui l'enfume complètement. Enfin, c'est un bordel monstre, l'autre elle est défoncée. Quelques épisodes plus loin, vous avez Michael qui est dans la voiture, qui dit « Ah, je crois qu'aujourd'hui c'est une bonne journée », il renverse Meredith Palmer et elle se retrouve à l'hôpital. Donc lui, il dit « Ouais, Meredith s'est fait renverser », genre lui, enfin, il y a tout le côté où il va annoncer qu'en fait c'est lui qui a renversé Meredith, et en fait on s'aperçoit qu'elle a chopé la rage parce qu'elle s'était fait morte par la chauve-souris quelques épisodes plus tôt. Ouais, donc du coup, ils ont, à chaque fois, ils écrivent une saison et ils arrivent à recouper. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi, comme on le disait, tu as le personnage de l'acteur qui joue Toby, Mindy Colling, BJ Novak. Tous ces personnages-là sont aussi scénaristes de la série, en fait.
Ouais.
Ils font partie du groupe de scénaristes. Greg Daniels et Dwight... y a Greg Daniels et le second, celui qui joue Moze, qui justement est... Et un des piliers centraux au niveau de l'écriture de la série, tu vois,
fait, non, ouais.
Qui est aussi fait partie de l'équipe qui a créé Parks and Rec, qui a créé Brooklyn Nine-Nine. Mm-hmm. J'arrive pas à retrouver le nom, son nom m'échappe, mais on va peut-être le retrouver entre-temps. Et du coup, effectivement, il y a donc pour l'anecdote aussi sur Parks and Rec, comme tu le disais, il y a le personnage de Rashida Jones en fait qui apparaît dans la deuxième saison, puisque vous avez un des personnages qui va dans la filiale d'une autre ville. C'est là où on fait la connaissance du personnage de Ed Helms, donc ouais. Andy. Et donc on a Rashida Jones qui devient le love interest de notre personnage, qui est finalement rapatrié la filiale, les deux filiales en fait fusionnent à Scranton, donc elle se retrouve là. Et en fait, à la base, il devait faire un spin-off de cette filiale avec Rashida Jones. Donc elle devait reprendre son rôle directement. Finalement, ils ont gardé l'idée d'avoir Rashida Jones parce qu'ils ont adoré son jeu et ils ont créé plutôt Parks and Rec qui se passe dans une ville fictive, dans un autre état des États-Unis. Mais la structure de Parks and Rec, quand on regarde, elle est sur les mêmes bases que The Office. Vous avez Ron Swanson et Dwight, c'est le même combat. C'est deux personnages qui sont un peu différents, mais qui ont une vision de Mal-Alpha, qui ont une vision de l'Amérique, qui ont une vision de la vie de bureau qui est finalement assez similaire. Et c'est vrai que voilà, c'est une série qui en France, comme on le disait, qui a peu marché au départ parce que le côté mockumentaire, c'était pas encore très développé.
Oui, puis, même sans ça, la sitcom n'a pas connu.
Elle n'a pas été tellement diffusée. Moi, j'en ai entendu parler très très tard. Hein.
Voilà, c'est la série qui a marché en sitcom, ça a été Friends. Puis après, quelques années après, c'était How I Met Your Mother.
On était sur le format rire enregistré. Comme voilà. Tu disais, tu vois,
tous les autres styles n'ont pas encore. Enfin, n'ont pas toujours.
Non.
Même des sitcoms qui marchent bien. Même en France, un truc comme Seinfeld a surtout été diffusé sur le câble. Donc.
Michael Schur.
Ouais. Ah oui, pour Moz. Donc forcément le fait de ne pas être tant diffusé que ça, on a plus eu droit à des séries de science-fiction, à des phénomènes entre guillemets à la Lost, à la machin, mais c'est sûr que les sitcoms c'était plus trop la mode quoi.
C'est une série qui n'était pas spectaculaire, on va dire aussi, donc du coup
comme tous les sitcoms, il y a peu de sitcoms qui sont spectaculaires.
Bien sûr.
Mais la limite les plus spectaculaires c'était Alf.
Oui, c'est clair. Mais je pense que c'est un format qui, je pense les distributeurs en France, notamment, ont sans doute été un peu frileux sur le truc parce que justement, ça sort un peu des codes. C'est assez nouveau finalement pour nous, je trouve. C'était assez nouveau au final ce format de série. Maintenant, c'est vrai que tu vois les séries comme Modern Family, comme tu disais, maintenant c'est devenu un peu la norme, tu vois. What We Do in the Shadows, tu vois. Mais c'est vrai que c'était un format qui, je pense, était peu répandu aussi. Donc, est-ce que ça a marché ou pas? Donc, on se risque pas. Moi, je l'ai découvert pendant le confinement, vraiment cette série. J'avais vu quelques épisodes et je me marrais. Mais vraiment, quand j'ai vu que Netflix l'a posé, et ça c'était Netflix a eu le nez creux, ils ont posé la série sur leur catalogue. Pendant tout le confinement, j'ai fait la série, je l'ai vue au moins 3-4 fois depuis, parce que voilà, bon, je suis très fan, hein, et on va pas se mentir, je l'ai en DVD et tout ça, mais je l'ai streamé, c'est aujourd'hui, je crois, là où une des séries les plus streamées du monde, ouais. Elle a eu le record de ça. Elle a eu bon nombre de récompenses aussi, ou enfin voilà. Et il y a aussi une anecdote sur le départ de Steve Carell aussi, comme tu disais. Donc il avait un agenda surchargé parce qu'il a commencé vraiment à prendre l'ampleur, surtout qu'il a été nominé aux Oscars, je crois. Enfin, il a eu des rôles de plus en plus marquants. Et en fait, au départ, Michael Scott devait être un peu moins présent, mais devait être présent. Et en fait, Steve Carell s'est aperçu que même Greg Daniels n'était pas trop au courant de tout ça, qu'en fait, son contrat devait cesser justement, je crois, au bout de la 7e saison ou de la 6e saison, je ne sais plus. Et en gros, ils n'ont pas donné de suite, en fait. Il y a eu une espèce de ghostage, en fait, qui s'est fait sur Steve Carell. Et il te raconte, en fait, que lui, il disait, mais moi, je n'ai pas trop su. En fait, je pensais que j'allais revenir plus en guest et tout ça. Et donc, c'est quand, je crois qu'il y a eu un passage, comme un peu avec Saturday Night Live, où Greg Daniels a été moins là sur le moment. Comme le showrunner ouais. de SNL. Et quand il est revenu, effectivement, là, ils ont remis un petit peu des pans où on repensait, où on avait des anecdotes de personnages qui parlaient de Michael Scott. Mais il y a eu un pan où, du coup, comme si Michael Scott n'avait plus existé. Quoi. Et c'est vrai que le dernier épisode, il y a une scène qui est marquante où ils chantent tous et on voit le personnage qui pleure. En fait, c'est vraiment vrai. Ils savaient pas du tout qu'en fait qu'ils allaient chanter. Donc les larmes qu'on voit sur le truc, ce sont les larmes de Steve Carell pendant le tournage de la scène parce qu'il était ému aux larmes. Quoi. Et voilà. C'est vrai que c'est une série qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu aujourd'hui, on a parlé d'un reboot, d'un remake. Finalement, ce serait éventuellement un spin-off qui serait tourné. Alors après, le spin-off devait être Parks and Rec. Finalement, ça a été Parks and Rec. Donc après, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis pas. Je suis pas certain.
Bah, c'est ce qu'on disait sur la notion de nostalgie.
Voilà, la notion de nostalgie.
On disait dans l'épisode précédent, le faire revenir des licences ou des trucs comme ça.
Exact.
Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez jeté un œil à How I Met Your Father.
Pas encore.
Non. Honnêtement, on dirait une version Lidl, quoi. Enfin, c'est pas méchant en tant que. C'est la
ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est une bonne imitation. C'est qu'une ouais. imitation. Et la fact n'est pas là. Voilà.
C'est vrai que la plupart des acteurs de la série aujourd'hui, y en a peu en fait qui ont vraiment percé. Bon, Ed Helms, Ellie Kemper, on l'a vu un peu. Jenna Fischer, tu la vois pas. John Krasinski, oui. Il va même sortir d'ailleurs un film d'animation où ouais. il y a beaucoup de personnages d'acteurs de The Office qui ont une petite voix dedans. Il y a eu David Baker qui joue le rôle de Stanley. Qui a été le premier personnage de série télé qui a fait l'objet d'une blague sur le fait que le président était noir, parce qu'il y a eu Obama, le fameux épisode où il y a l'alerte incendie de White et il fait un arrêt cardiaque et du coup il fait « Tu peux pas mourir maintenant Stanley, Barack est président ». David Baker avait lancé une campagne de crowdfunding pour lancer en fait une série qui serait appelée « Uncle Stanley », où il devait aller sortir de sa retraite, le personnage de Stanley, pour aller aider son neveu ou autre parce qu'il était dans la merde. Ça n'a pas pris parce que déjà de base personne vraiment y a cru, même si les gens aiment bien le personnage de Stanley, c'est pas un personnage assez puissant pour avoir sa propre série.
Ouais, pour porter un film ou une série, pardon.
Moi si tu me dis un personnage de The Office sur lequel je verrais un spin-off qui pourrait potentiellement marcher, je verrais un personnage comme Dwight parce qu'il est assez haut en couleur et encore je pense que les gens s'épuiseraient, tu vois. Au final la série elle a cette harmonie de tous ces personnages là et en fait un spin-off sur un autre personnage. Finalement, le fait de le faire sur le personnage de Rashida Jones, qui est juste de passage pour ensuite créer un autre univers, c'est pas con.
Ouais, j'en aurais fait un sur Daryl, tu vois.
Daryl est pas mal, surtout dans l'univers sportif.
Voilà.
Tu aurais pu faire un truc un peu à la série, tu sais, avec The Rock, là, ça me fait penser un peu à ça. Ou...
Ah, Young Rock, non.
Entourage, non.
Ah,
Un truc peut-être un peu côté entourage.
Dallas.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc oui, je pense Daryl, tu vois, aurait eu
Daryl
un bon...
Daryl, on aurait pu avoir un bon... Enfin, un truc capital humour du personnage, et enfin, de l'acteur,
ouais.
quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Donc,
Bon, voilà, en fait, on voit ce qu'on veut voir dans l'imaginaire de nos potentielles suites de The Office. Quoi.
Exactement. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, du coup, c'est une très bonne série.
Allez découvrir ça sur Netflix et pendant ce temps, nous, on va s'ouvrir une bière.
Exactement. Je vais même mettre un petit extrait en attendant. Hop, je vais vous mettre l'extrait du truc incendie pendant qu'on va chercher l'autre bière et que je vais préparer mon sujet brassicole qui est sur les concours et après on passera au roco et au quiz. Allez, c'est parti, on va ouvrir notre dernière bière.
La semaine dernière, j'ai donné des consignes en cas d'incendie.
Les voix françaises, c'est horrible.
Mais personne ne m'écoutait. C'est ma faute, j'avais fait ça sous PowerPoint. PowerPoint, c'est pas drôle. Les gens apprennent de bien d'autres manières. Mais expérimenter, c'est la meilleure façon d'apprendre. Aujourd'hui, fumer va servir à sauver des vies.
L'extrait est moins radiophonique que je pensais.
Vous ne sentez pas une
voilà.
odeur de brûlé?
Tiens, Brice, ça
c'est ton bœuf séché qui a cette odeur-là, non? Ah! Oh mon Dieu! Quel feu! Ah
au feu! Quel feu! Oh mon Dieu, quelles sont les procédures à suivre? Que doit-on faire, mes amis?
Quoi?
Ah, c'est arrivé comment?
C'est dans le couloir.
Non, on n'en sait rien. La fumée peut très bien venir du fumée de terrasse.
Mon Dieu, l'incendie, ça peut arriver. Ne paniquez surtout pas. Ne paniquez pas.
La procédure.
Calmez-vous.
Non, Michael, non. Touchez la poignée avant. Si elle est chaude, c'est que le feu est dans l'entrée.
C'est juste chaud.
Oh mon Dieu!
On s'en parle là!
C'est une mauvaise option! Quoi d'autre?
Ne coupe pas!
Ah, voilà une autre porte! Comment il a poigné?
Ma compagne a eu du mal à aimer cette série, je lui disais, mais il gueule tout le temps dans cette série!
Une autre option! Une autre option! Allez! Réfléchissez deux secondes!
Surtout là!
Tant pis, laisse-le cramer!
Pas de passage, avancez, avancez!
Je remplace un objet, Félix, pas une personne! Une vie, ça n'a pas de prix! Oh la vache! C'est chaud!
Ah, celle-là aussi est chaude!
Ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa peau!
Attendez! Du calme, ça ne sert à rien de s'énerver! Avez-vous déjà vu un grand brûlé?
Dépêche-toi!
Réfléchissez! Quelle est la procédure à suivre? Quelle option reste-t-il? Où doit-on aller? Que doit-on se mettre
en place? Le chat. C'est là où. Ils arrivent à exagérer des traits sur des personnages, mais en même temps, tu arrives à garder une crédibilité sur ce qui se passe. Mais en même temps, les trucs comme ça sont irréalistes en fait, quand tu penses.
Je vais chercher de l'aide, tiens bon!
Aide-moi à monter!
Non, t'es trop lourd!
40 kilos, c'est pas lourd! Alors, sans bandit!
L'urgence de la situation et la montée d'adrénaline aident à prendre une décision rapidement.
Je veux pas crever ici, c'est moi.
Ça me fait beaucoup. Le feu est en train de nous tirer dessus. C'est un des personnages quand même qui est le plus éduqué de la série à la base. Il est à la Cornwall University, tu vois. Andy. Je vais expliquer pourquoi j'ai mis cet extrait avant de démarrer le truc. Ça, c'est Stanley, du coup. Pour ceux qui découvrent.
De Dunder Mifflin. Ceci était un test pour voir vos réactions en cas d'urgence. Il n'y a aucun incendie, c'était une simulation.
Quoi?
Et voilà, et donc juste après cette scène, on a Stanley qui fait l'arrêt cardiaque, et en fait, c'était un extrait qui avait été diffusé au Super Bowl. Et c'est là où la série a vraiment commencé à hyper de ouf. Et il y a une scène de The Office qui a coûté le plus cher de toute la série. C'est une scène où il y a deux personnages qui se retrouvent à une station-service, et en fait, ils avaient reconstitué entièrement la station-service et fait tourner des voitures en boucle pour faire croire qu'il y avait du trafic avec la pluie. Je n'ai pas compris pourquoi ils sont pas allés dans une station-service pendant 10 minutes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, pendant le temps du tournage. Donc c'était assez particulier, voilà. Mais voilà, c'est un peu. On pourrait parler des heures de cette série. Mais on va faire un petit quiz après tout à l'heure sur ça. Moi, du coup, je vous parle plus brièvement que The Office sur ces fameux concours auxquels j'ai assisté, donc au millésime bio, les amis. Du coup, quel est l'intérêt en fait de ces concours alors? Donc chaque année on a la même rengaine de la communauté geek s'affole des résultats qui juge ces concours sont indignes de la scène craft ou encore que c'est des concours falsifiés. Mais au fond, qu'est-ce que sont vraiment ces concours? Quel est leur intérêt? Et là, pourquoi il faut pas non plus les bannir en fait du paysage brassicole? Donc ces concours, en fait, on les retrouve un petit peu partout aujourd'hui, hein. En France, le plus vieux qui date de 1996, c'est celui du Musée français de la brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, comme dirait Philippe Bouvard dans les grosses têtes, que l'on appelle le Fourquet, les Fourquets d'or. C'est un concours qui est très réputé et qui est aujourd'hui encore très réputé justement parce qu'il est ouvert aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Donc il est abordable en fait pour les concurrents. Vous n'êtes pas à payer une somme énorme pour y participer. C'est ça qui est très intéressant parce que ça révèle quand même quelques talents, hein. Il y a d'autres concours qui se sont greffés entre temps. On peut citer le concours de Lyon, celui du Général Agricole, du fameux salon de l'agriculture, qui a lieu chaque année durant ce fameux salon, qui était très cher à notre défunt président Jacques Chirac. Et on a aussi le France Beer Challenge, nouveau venu depuis la révolution brassicole, qui a rapidement acquis ses lettres de noblesse dans ce type d'événement. Donc, ces concours offrent des récompenses or, argent, bronze dans plusieurs types de catégories via un jury dégustant les bières à l'aveugle. Donc, chaque concours a cependant ses spécificités. Donc, les catégories, on a celles-ci d'ailleurs qui ont tendance en fait à évoluer avec l'arrivée de nouveaux styles, hein. De fait, il faut bien déterminer son style de bière avant de le présenter. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des bières où on savait pas trop si c'était une ambrée ou une IPA ou une pale ale. C'était un peu borderline pour ça parfois. Pour ce qui est du jury, donc tout dépend du concours. Certains vont accueillir uniquement des professionnels de la bière hors brasseur. D'autres vont mélanger experts brassicoles, experts gastronomiques, experts vinicoles. Comme ça a été le millésime bio, j'étais avec des gens du vin notamment. Ou à Brignoles, j'étais aussi avec des gens qui n'y connaissaient rien en bière, qui étaient juste amateurs. D'autres encore, donc justement, on va aller, comme je le disais à l'instant, sur les consommateurs lambda. Donc chaque année, ces brasseries qui veulent se présenter payent un droit d'inscription et un droit d'entrée pour chaque produit qu'elles veulent présenter au concours. Donc tout type de brasseries sont concernées, incluant les industriels, hein, c'est pas un truc spécial craft, de base sur ces concours généraux. Après, on a d'autres effectivement qui sont uniquement réservés aux indépendants. Donc c'est des concours qui ne désemplissent pas, hein. Chaque année, on retrouve des nouvelles brasseries, mais aussi des réguliers qui sont venus chercher une nouvelle médaille arborée fièrement sur leur bouteille, ce qui nous amène à cette question, quel est l'intérêt? C'est vrai que vous avez des brasseries que vous retrouvez chaque année. Vous allez avoir Alaric, dont je fais partie du jury qui a primé Alaric, qui est une brasserie du côté de Sète, je crois, qui est qui a beaucoup de moyens, qui fournit des tanks de 500 litres dans les bars maintenant, plutôt que des fûts. C'est vous dire le bousin. On se demande souvent quel est l'intérêt donc, pour une brasserie des concours. Est-ce que c'est une manière de flatter son égo de brasseur? Est-ce que c'est une action marketing? Est-ce que c'est une envie de tester son travail? L'intérêt, je veux dire, il va être propre à chacun. Mais on peut retenir deux raisons majeures qui vont pousser certains à concourir. Il y a la visibilité et avoir un retour sur son travail. Donc les deux vont de pair. Hein. Une présentation au concours brassicole peut, si on gagne, apporter une réelle visibilité à la brasserie et ainsi la faire connaître. Une brasserie qui gagne des médailles se verra plus facilement proposer une distrib à grande échelle en GMS ou en cave, par exemple. C'est vrai que dans mon bar, par exemple, dans les frigos, une bière qui arbore une médaille de quoi que ce soit, les gens s'en foutent, on s'en bat les couilles, en fait. Maintenant, vous allez dans le GMS, vous allez avoir un particulier qui veut acheter une bière, hors Heineken et compagnie, il va avoir un truc médaille d'or du concours agricole. Forcément, ça va lui parler. Donc là, il y a ce côté marketing. Donc la brasserie va jouer sur les deux plans. Elle crée une action marketing et elle voit son travail récompensé. Donc les bières qui gagnent des médailles sont ainsi susceptibles d'attirer un plus grand public, comme je le disais, quel que soit le style. Bien entendu, ne se présentent que celles qui ont une volonté d'envergure peut-être nationale ou internationale. C'est donc en toute logique qu'on ne va pas forcément trouver le petit brasseur du coin au concours et pour cause. Si celui-ci ne souhaite pas étendre son champ d'action et vit très bien sur sa zone de chalandise, il n'a aucun intérêt à gaspiller de l'argent pour des concours. Sa page Facebook, son site internet ou son compte Instagram vont suffire largement. Si en revanche, on veut voir pouvoir être vendu sur tout le pays, obtenir des contrats ou à distribuer, effectivement, là, le concours va avoir son importance. Bien sûr, il n'y a pas tous les concours qui se valent. Hein. Le concours des fourquets évoqué plus haut est abordable et les petites brasseries peuvent se présenter pour tester leurs produits, mais aussi échanger. Ce concours est un peu différent des autres dans le sens où il est peu cher et très élargi sur les participants.
Oh, peu cher.
Voilà, les concours, c'est comme tout. Il y en a des très bien fichus avec une belle envergure, d'autres qui sont très sérieux, d'autres qui font plus carton-pâte et qui vont faire penser à ces fameux élus produits de l'année sur bon nombre de produits qui contiennent bon nombre de fois de la merde, et on le sait. Quand vous avez chaque année les mêmes brasseries qui ont des médailles d'or, bon, il n'y a pas de surprise en soi. Donc voilà, pourquoi par contre ces concours, justement, je disais, doivent malgré tout perdurer. On peut critiquer les résultats si l'on veut, évidemment. Pourtant, chaque année sur les forums et les groupes geeks notamment, c'est un peu le même débat. Chaque année, on a les mêmes discours par les nouveaux venus, de nouveaux sachants tout droit, qui sortent de l'école de Danny Kruger et qui vont pas aller voir plus loin que le bout de leur nez. Loin de moi vouloir remettre une couche sur ce que j'appelle les nouveaux beer snobs, évidemment, ça c'est pas le but, même si je suis pas fan de ces gens-là. C'est important en fait de comprendre qu'en quoi ces concours sont un plus. Tout d'abord, on peut critiquer autant qu'on veut les résultats. Il y a deux choses à savoir. La présentation de la brasserie est libre et les dégustations sont effectuées à l'aveugle. Quel que soit le résultat, c'est à l'aveugle. Si vous êtes un professionnel de la bière et que vous êtes un beer geek, voilà, à la Gilbert Montagné, mais que vous allez donner une médaille d'or. Non, mais que vous allez vous donner une médaille d'or à une bière industrielle, tant pis. Parce que comme je dis, il peut y avoir des très bonnes bières industrielles et des très mauvaises bières artisanales et inversement en fait. Donc du coup, vous pouvez être dans un cas similaire. Donc à moins de connaître pertinemment la bière d'une brasserie au centilitre près, c'est quasi impossible de pouvoir dire « Ah, celle-ci c'est une bière industrielle, je la bois pas ». Donc c'est toujours une petite polémique en fait à chaque fois. Mais effectivement, vous allez déguster une prise, une débauche ou une popin, rarement j'ai vu ces bières-là ou jamais aller dans des concours. En fait, elles y vont pas. Et ils en ont pas besoin, ils ont leur notoriété, en fait. En revanche, par exemple, la brasserie Minotte à Marseille a fait le concours général agricole, je crois, l'année dernière, et avait eu sa médaille. Parce que l'ambition de la brasserie Minotte était d'aller dans les supermarchés, justement, de tester le marché du GMS. Donc, de même que y a aussi des brasseries qui vont faire ces concours pour avoir un retour d'experts sur leur création. Et donc, ça leur permet aussi d'avoir un feedback clientèle et un feedback consommateur très, très utile, sans pourtant d'aller arborer en fait ce logo. Je prends un exemple, quand j'ai fait l'année dernière le concours de Brignoles, sur tout le panel de brasseries qui avaient obtenu des médailles, beaucoup, on a frôlé plusieurs fois le fait de donner une médaille à la FADA.
D'accord.
La FADA, donc, qui est du groupe Cronenbourg, hein, qui est comme j'avais déjà dit plusieurs fois, c'est un petit peu du craft washing, puisque c'est une brasserie qui a été créée toute pièce par un industriel pour inonder un marché local. Ils ont failli gagner quand même le concours, puisqu'ils étaient quand même pas loin sur certains résultats. Ouais. Ils auraient gagné, ça m'aurait fait chier, moi, à titre personne, de me dire, putain, c'est un indus au final qui a réussi à gagner. Mais s'il avait gagné, si ses produits sont stables, tu vois, il y a pas photo. Donc après, bon, ben, je comprends totalement qu'ils aient pu gagner, tu vois. Donc en gros, effectivement, ces concours, il faut les maintenir. dans le sens où ils ont un intérêt pour les brasseries, pour le consommateur, pour ces trucs-là. Après, c'est pas, comme on dit, comme je disais, les élus produits de l'année, c'est pas des produits à garder comme acquis. C'est pas parce que vous voyez marqué élu produit de l'année sur un produit que ça veut dire qu'il est bon pour votre santé non plus. On a qu'à le voir récemment avec l'eau, on a vu que
et
les
puis
mecs...
Et ça dépend de l'année. Quoi.
Et ça dépend de l'année.
Ça dépend de l'eau. Qui s'est présenté aussi, il y en a qui se présentent pas.
Il y en a qui se présentent pas, comme je disais, Popin, Prism, toutes les brasseries un peu geeks, elles font pas ces concours, ils s'en foutent. La plupart du temps, ce sont des brasseries qui veulent vraiment, comme je disais, soit développer leur marché, soit connaître un peu mieux leur marché et voir comment ils ont, quel retour ils vont avoir de professionnels. Au concours agricole, on a eu la brasserie Les Malfaiteurs qui est vendue par exemple à Marseille et notamment dans des biocoop. Le but était pour Sylvain et son équipe de voir un petit peu quel était le feedback des professionnels et des amateurs. S'ils gagnaient un concours, ils étaient très contents. D'ailleurs, je crois qu'ils en avaient gagné, ils avaient gagné une médaille. S'ils gagnaient rien, le tout c'était de savoir un petit peu qu'est-ce qui avait plu ou pas plu. Parce qu'encore une fois, quand vous faites le concours, vous avez une fiche de dégustation, des fiches de dégustation qui sont ensuite gardées. Donc éventuellement, si les organisateurs sont assez cool, ils peuvent éventuellement vous redonner, en fait, à vous, brasseurs ou brasseuses, les fiches de dégustation et voir, par exemple, les commentaires que vous avez pu laisser. Donc, et ça peut arriver qu'il y ait des loupés totaux, hein, totalement, tu vois, donc des loupés totaux, qu'il y ait totalement des loupés dans ce que vous faites. Donc voilà, c'est là où c'est intéressant. Donc, c'est pas la même vie de bureau que dans un bureau à la D-Office, mais ça reste quand même voilà, un sujet qui revient sur la table. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, après avoir fait ce jury Millésime Bio, de bah, vous parler un petit peu de ces concours. Donc voilà, j'ai écrit notamment sur ça beaucoup plus en détail il y a un an ou deux de ça. Et mon ami Thomas Barbera de Happy Beer Time et du Drapeau Rouge à Montpellier avait lui aussi écrit, je sais plus, c'était quasiment en même temps que moi, je crois, un article sur le sujet aussi où il résumait lui, par contre, plus en détail les concours différents qui existent en France et un petit peu à l'étranger. Voilà. On va terminer notre podcast pour notre habituel quiz, les amis.
On va peut-être parler de la bière qu'on a.
Et oui, pardon, on va parler de la bière qu'on a, excuse-moi, c'est vrai, tu as raison. La That's What She Said, qui est une Juicy Sour Kiwi Litchi Poire de chez Tankbusters. Qui titre à combien cette bière? À combien le titre? Est-ce que je le vois? Je ne le vois pas. Elle est à 5%, donc très, très douce. Elle est très fruitée. C'est, alors le kiwi litchi poire, j'avoue que je ne m'y attendais pas. C'est un trio que je n'ai jamais vu dans la bière. Mmh. Et en fait,
à vrai dire, c'est, avant même de la référence à The Office, c'est cette association-là qui m'a fait acheter la bière. Enfin, à vrai dire, je l'avais déjà goûtée à Paris quand je l'ai achetée. Enfin, quand je l'ai acheté pour le podcast, je l'avais déjà goûté là-bas. Je l'ai trouvé super original. Et après, j'ai vu l'étiquette en réalité, j'ai dit ah,
on peut faire quelque chose.
On va en faire un truc.
Parce que jusqu'à présent, on n'avait que la Sibéria. Et puis, ben, entre-temps, on a eu la Ice White Truth et compagnie. Donc, effectivement. Je vais vous faire un petit quiz, du coup, spécial bureau, les copains.
Ikea.
Donc, voilà. Donc pareil, comme d'hab, 20 petites questions, et puis voilà, il faut trouver le nom de la série ou du film. Donc, ça peut être assez simple, hein. En vrai, vous allez, je pense, pour la plupart, trouver très rapidement. Première question, un bureau où on peut voir Elise et Moon en roller manquer d'écraser Bernard Menez. Voilà, on en a parlé au début de l'épisode. Deuxième question, une société où les gens boivent plus de café qu'autre chose.
Caméra Café.
Eh oui, Caméra Café.
Oui.
Qui était le prédécesseur de Kaamelott sur la tranche horaire à l'époque. D'ailleurs, c'est...
C'est produit par Calte au départ.
Ouais, et Yvan Le Bolloc qui fait la petite transition en construisant la table ronde, ouais. Du coup, dans la série. Un bureau, il est très difficile de demander quelque chose à cause du bureau rond à l'accueil et le monsieur moustachu qui tourne la chaise au moment où on lui parle. Là, c'est une anecdote liée à un épisode de cette série. Dont on a parlé. Un bureau où il est très difficile de demander quelque chose à cause du bureau rond à l'accueil et le monsieur moustachu qui tourne la chaise au moment où on lui parle. Je sais pas si vous voyez cette scène.
Là.
C'est Parks and Rec. C'est l'épisode où en fait ils changent un petit peu tout et ils mettent à Ron Swanson, donc l'équivalent du Dwight dans la série,
à l'accueil.
Et donc il est sur un bureau rond. Il est au centre, il y a une dame qui vient lui parler, et en fait, dès que la meuf vient lui parler, il tourne la chaise et elle court autour du bureau, et lui continue à tourner, et puis tu sais, il a aucune expression au visage, genre il veut pas lui parler, quoi. Visuel, dit que raconter comme ça, ça a pas l'air drôle, mais visuellement, c'est très drôle comme scène. Un bureau où on trouve la crème de la crème de la crème de la police new-yorkaise.
Brooklyn Nine-Nine.
Eh oui, qui a perdu son capitaine il y a pas longtemps, malheureusement.
André Bauer.
André Bauer, ouais. une série où l'on suit des ingénieurs informatiques.
The IT Crowd.
Ouais, c'est ça. Une série où on suit une fille moche qui essaye de faire son lit dans une société de mode.
Ugly Betty.
Ouais. Qui est adapté, je crois, d'une série espagnole.
Ouais, un truc comme ça.
Mais il n'y avait pas aussi l'adaptation, le destin de Lisa, je crois que c'était pas aussi la version allemande.
Peut-être.
Je crois que c'était ça aussi, il y avait ça. Quand il ne tue pas des gens par accident, Alec Baldwin nous plonge dans les coulisses d'une émission de télé.
30 Rock.
Exact. Avec Tina Fey, je crois. C'est comme ça.
C'est ça.
Un film où on essaie de virer un mec, mais en fait non, parce qu'il semblerait peut-être qu'il est gay. Là, on est sur un film français.
Ah, un film français.
Ah, ouais. Oui. Oui. Avec Daniel Auteuil.
Placard.
Oui,
ouais, le placard.
François Pignon, le fameux François Pignon. Je pense de Bernard Weber, il me semble, c'est ça.
Francis Weber.
Un film où mieux vaut ne pas être l'assistant de Meryl Streep.
Diable s'habille en Prada.
Exact. Un film où Chris Pratt est tellement chiant que le professeur Xavier lui explose les dents avec un clavier. C'est une scène d'un film. Faut trouver le film, du coup. J'ai vu que très récemment que c'était Chris Pratt l'acteur, parce que du coup je l'avais pas.
Oh merde. Texte.
C'est un film barré, je crois que c'est tiré d'un comics avec des gens qui ont des pistolets et puis qui sont capables de faire tourner les balles en donnant de l'élan à leur flingue.
Ah oui,
Wanted.
Wanted.
Un comics de Mark Millar.
Voilà, ouais. Un truc barré, tch, la balle tourne, enfin, c'est n'importe quoi. Un film avec une bureaucratie qui pourchasse des gens en latex. Dit comme ça fait un boulard. Mais je vous promets que c'est un vrai film. Hein. Ouais. 1999, pour donner l'année de ce film.
Matrix ?
Ouais.
Oh putain, oui.
Et ouais, oui. Un film qui te montre les coulisses de la bourse de New York tout en lançant au calme des nains.
Le Loup de Wall Street.
Ouais, tout ça. Un film où t'as Renault, à l'époque où il savait parler, qui décide de faire grève avec ses potes, mais ça se passe pas super, Germinal. Super bien. Ouais. C'est un film où on peut voir des boss imbuvables, comme une Jennifer Aniston d'info ou un Colin Farrell avec une sexy calvitie.
Comment tuer son boss.
Comment tuer son boss. C'est un film où un type qui en a marre de son boulot cherche à se faire virer, mais il fait qu'obtenir des promotions à son grand désarroi.
Je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
Peu connu ce film, je crois, en France. Mais...
Ted.
Non, 35 heures, c'est déjà trop.
D'accord, mais Ted, c'est pareil. Je rappelle que l'ours, quand il est dans son...
Ah oui, c'est vrai.
J'ai vu cette scène-là il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est vrai.
J'ai vu Ted il n'y a pas longtemps.
C'est Tom Cruise qui s'engage dans la Startup Nation, mais en 1993, bien avant que ça n'arrive en France.
Show me the money, Jerry Maguire.
Non, c'est un autre.
Pas Venia Sky.
Non. Imagine un synonyme d'entreprise. C'est le titre du film, en fait.
The Company, non.
La firme.
La firme.
La firme. Un film qui nous raconte...
Tom Cruise.
Ouais.
Putain, c'est vieux.
Un film qui nous raconte la vie dans tout ce qui est marketing avec un Jean Dujardin qui dépasse pas 100 euros.
99 ans.
Un film tiré d'un roman qui nous raconte comme quoi bosser au Japon, c'est pas super super. Un roman d'Amélie Nothomb.
Non.
Stupeur et tremblement.
Okay.
C'est un film où un type bien placé dans le marketing se retrouve soudainement à entendre toutes les pensées des femmes.
Ah, ce que veulent les femmes.
Ouais, avec Mel Gibson et Helen Hunt. C'est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque.
J'ai vu au ciné.
Moi aussi. Et j'avais vraiment bien kiffé. Je trouvais que le concept était pas mal. 20e et dernière question, une série qui nous montre la vie en entreprise dans une agence de pub, mais dans les années 60.
Mad Men,
ouais, exactement. Que j'ai pas vu cette série d'ailleurs, j'ai juste repris.
J'ai vu les deux premiers épisodes, c'est tout.
C'est vrai.
Ouais.
Donc voilà, on arrive à la fin, les copains. Est-ce que vous avez une reco proposée? J'en ai une petite, moi, s'il faut.
Vas-y.
Écoutez, voilà, moi, ma petite reco, ça va être la série Echo sur Disney+, puisque je reste sur l'épisode présent, j'étais sur What If, et en fait, c'est ce mois de décembre, j'ai regardé en fait ces deux séries pendant que je bossais, donc j'ai regardé Echo. Pourquoi je la recommande, c'est parce que les dernières séries Marvel étaient très bof en dehors de What If, les séries live action je parle, et j'ai trouvé très cool et en même temps un peu pathétique le fait que Disney soit revenu sur le côté sérieux des séries Netflix, puisque Echo est dans, et du coup maintenant on sait que les séries Netflix sont canon dans l'univers Marvel, puisque ils ont remodelé un petit peu les scénarii de Daredevil. Du coup, on retrouve
Born Again.
Born Again. Du coup, on retrouve en finale tous les personnages de la série initiale, dont même le Punisher. Et il y a même, je crois, il y a Jessica Jones qui a été annoncée.
Non, je pense que c'est une rumeur pour l'instant.
Peut-être une rumeur.
Une rumeur forte, mais.
Voilà. Mais c'est pas impossible qu'ils nous fassent un petit retour de Defenders ou un truc comme ça à l'occasion, tu vois. Et donc, ils ont fait Echo. Et donc, j'étais, au début, j'étais pas surnom parce que c'est vrai que Echo, tu la vois au début dans la série de Hawkeye.
Et tu l'entends pas trop.
Et tu l'entends pas trop, voilà. Mais tu la vois dans la série Hawkeye. Donc, sur le coup, tu es là, tu fais bon, ok. Et puis, on va faire une série dérivée.
Hawkeye, pas ok.
Ok. Donc, tu vois la dérivée, tu dis tout, tu revois le personnage de Vincent D'Onofrio, le Kingpin, le Cade. Je cherche en français le Cade, qui revient, qui fait toujours aussi peur, entre guillemets, dans son style, mais tu te poses quand même la question, est-ce que c'est le même, du coup, que tu vois dans Punisher et dans Daredevil, notamment. Et au final, la série débute, et en fait, tu vois que c'est violent.
Violent, c'est autre chose.
Pas violent. Non, mais voilà, c'est vraiment violent. Il y a le côté un peu fou, en fait, du Kingpin ressort bien. Donc au final, en fait, tu vois, j'ai été très agréablement surpris. Il y a même une scène avec Daredevil dans le premier épisode où tu retrouves le Daredevil vraiment. Bon, c'est dans les bandes annonces, mais tu retrouves vraiment le Daredevil précédent et pas celui qu'on t'a montré dans She-Hulk où là c'était dégueulasse. Enfin, la manière dont on t'a montré, tu comprends pas. Surtout qu'on te l'a réintroduit Daredevil dans le dernier Spider-Man. Ouais. C'était un peu bizarre, quoi, la manière dont ils ont amené. Tu sens qu'il y a eu une espèce de retropédalage de Disney qui a un petit peu capté, alors que c'était quand même évident. Que les séries Netflix qu'ils avaient fait étaient très très qualitatives à mon sens.
À part Iron Fist.
À part Iron Fist, tu as raison, tout à fait. Et donc voilà, ils ont repris.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de rumeur d'Iron Fist, bizarrement.
Non, non. Je verrai le personnage peut-être ressurgir pour un caméo et encore, tu vois, vraiment. Ouais. Mais voilà, ils sont. La série est vraiment bien faite, elle ne dure pas longtemps, elle est en 5 épisodes. J'ai trouvé ça assez cool le fait qu'ils aient vraiment joué sur le personnage donc qui est réellement sur le muette évidemment et handicapé parce qu'il lui manque justement une jambe, mais le fait qu'il joue sur sa culture indienne, je crois que c'est les Indiens Mohawks qui ont été
natifs américains
les natifs américains Mohawks qui ont été sollicités pour la série, donc tu vois vraiment le côté culturel qui est bien amené, bien à retranscrit dans la série. Il y a quelques petits trucs un peu fantastiques où bon, je comprends pas trop, mais des fois avec les séries un peu comme ça, il y a du mal des fois à comprendre d'où vient le côté fantastique du truc. Mais voilà, c'est une série que j'ai bien aimée, que j'ai trouvé assez cool et que voilà, que je recommande si vous cherchez à vous à renouer contact avec une série Disney. Bon bah en fait, oubliez un petit peu les dernières qui ont été faites et allez directement sur Echo. Surtout si vous avez kiffé les séries Netflix, si vous n'avez pas vu les autres séries Disney, bah allez directement sur les deux derniers épisodes de Hawkeye pour piger le truc. Et encore, je crois que vous avez pas besoin, c'est bien résumé. Et basculer directement sur Echo, ce sera beaucoup mieux. Beaucoup voilà, mieux. Les amis, c'est la beaucoup fin mieux, de notre épisode spécial The Office. J'ai l'occasion de relancer le générique pour l'instant. Parce qu'il est tard, il est 23h30 et on va aller se coucher, nous. Et qu'on est dimanche, on est enregistré. Donc, Eric, je rappelle, on te retrouve sur la fatigue se fait entendre. Sur les arts narratifs.com.
En ce moment, le plus courant, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Art Narratif, sur
Twitter X.
Et sur X, sur Instagram, un peu Facebook, Sky.
Voilà, exactement. Toi, Brice, on peut te suivre sur les réseaux sous le nom de Grand Tozer Piglet.
Ou dans la rue, si vous voulez aussi.
Ou dans la rue, voilà, il faut juste qu'il courir vite. Et moi, vous pouvez me retrouver sur www.thebeerlantern.com, sur le site où je publie de temps en temps. Vous pouvez me voir de visu de temps en temps au Beer Academy. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Et effectivement, les derniers, là, je me suis mis un peu sur Threads, sur TikTok, j'ai rien publié encore, sur Mastodon et sur Blue Sky. Voilà, mais bon, il y a beaucoup de réseaux, donc je peux pas tout faire. Donc.
Je pense que Blue Sky, c'est celui où je me sens le plus à l'aise après Twitter.
Blue Sky est plutôt cool, ouais. Il faut que je me mette ça. Thread, c'est plus une extension d'Instagram, on va dire. Mais voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve le mois prochain.
Peut-être avec
un autre épisode de je ne sais quoi.
Un petit je ne sais quoi.
Je ne sais quoi encore, mais voilà.
C'est bon les je ne sais quoi.
C'est tout pour nous. Et merci à tous et à très bientôt.
À demain au bureau.
À demain.
Vers l'infini et au-delà.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement.